Jean, les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas de tout, on non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment, monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas
de inconvénient, j'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégor, chaque semaine sur l'école des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Grégor, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, on va consacrer la majeure partie de notre émission bien par rapport à la lutte qui se passe en Italie contre le TGV, la fameuse ligne Lyon-Turin. Je crois qu'on a Maurizio au téléphone, tu m'entends?
Voilà, bonsoir à tous, bonsoir. Et merci de bonsoir. Nous donner la parole.
Oui, bien sûr. Alors justement, je crois que ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de mobilisation sur place. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté italien?
Oui, alors la première chose, bon, que je veux dire, est que le camarade qui était tombé, il était un petit peu mieux. Et ça, je crois que pour tous les solidaires à notre lutte et pour nous tous, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que jusqu'à ce soir, à 21h, à Bussoleno, on va décider les nouvelles luttes de la semaine. Vous avez dit des luttes passées, après on va parler aussi de ça, mais je veux dire que la lutte, il va continuer.
D'accord.
Il est très décidé à s'opposer à les projets. Ça fait 20 ans, même 22, qu'on a commencé cette lutte, mais on a déjà des jeunes. Ils étaient vraiment des enfants quand la lutte a commencé. Et aujourd'hui, ils sont dans la lutte avec nous. On a les grands-pères, les grands-mères. On a vraiment toute la vallée.
D'accord.
Et bon, je peux expliquer un petit peu. Ça fait presque 2 semaines. Ils ont décidé de forcer la situation. Enfin, je dis, ils ont décidé, je dis, le gouvernement et les militaires, et la police, et étaient déjà en situation très militarisée de tout l'été.
Oui.
Et vraiment, pour les camarades français qui sont été chez nous, ils étaient très bien. On a des checkpoints partout. On a plein de policiers, mais aussi des militaires partout. Et dernièrement, ils ont envoyé aussi des jeeps, des cars, avec la signée ONU.
Oui,
alors vraiment, ça ressemble à d'être en Afghanistan, dans des comtés de guerre comme ça. On a décidé
Maurizio, je te coupe juste préciser une ou deux choses. Les personnes qui ont l'habitude d'écouter notre émission ici ont déjà entendu parler de la lutte en Val Susa.
La lutte contre l'autre vitesse.
Oui. Et donc, nous avions interviewé Pat cet automne.
Oui.
Mais je pense que c'est bien de rappeler que, puisque tu parles de l'été, cet été, vous étiez dans la Baïta. Donc, la Baïta étant le lieu que vous avez construit sur un terrain que vous avez acheté. C'est bien ça?
Oui, c'est
voilà.
Vrai. Et pour tout l'été, on a vu la Baïta et on a vu aussi des campings. Hein. On a vu une expérience que nous, on a appelé la République, la libre République de la Madeleine.
Oui.
On s'est inspiré très clairement à la République des Maquisards qu'on avait vu dans l'Italie dans les années 45.
Oui. Hein.
Contre les nazis, contre les fachos et les Allemands.
Oui.
Et déjà dans les juin de cette année, avec 2000 hommes armés, nous avait attaqué un matin. Et il avait tiré même des balles lacrymogènes jusqu'à dans la forêt et tout. Même ils ont tué des petits animaux. Ils ont détruit la lavande. Ils ont détruit, les vignes, on fait le vin, etc.
Oui.
Cette fois, ils ont décidé même, par un petit baïta, et que vraiment c'était un lieu où il fallait rester en vingtaine de personnes, mais c'était un symbole, et je le dis, c'était dans des serres que nous, on avait compris, comme tu as dit qu'on avait acquisté, qui était à nous. De toute façon, on est dans un état qui part des propriétés privées, et alors, c'était à nous, cette propriété.
Oui.
Et ils sont, bon. Et eux, ils ont passé des sangs et nous ont attaqué. Ça fait 15 jours.
Oui.
Un agriculteur, Lucaba,
oui.
Face à ça,
Luca.
Il est monté sur un pal, on peut dire, je ne sais pas ce que c'est.
Un pilon.
Voilà, de haute tension.
Et
normalement, quand une personne, par des questions de suicide ou des autres questions, il monte sur une chose comme ça, on ne va pas à les courir dessus, comme ils l'ont fait dans ces cas. Normalement, on bloque l'énergie, on appelle les pompiers, et on fait tout, une série de choses.
Oui.
Cette fois, ils ont décidé vraiment de faire seulement une chose militaire, et les camarades, il avait derrière lui des flics qu'il appelle, des flics qu'il monte, qu'ils vont sous les montagnes et tout, des arrampicatori, on dit en Italie.
Oui.
Et bon, ils ont
des chasseurs alpins, c'est ça?
Et le camarade, il est monté, et bon, il a pris un coup d'électricité, et il est tombé pour presque 10 mètres, même plus.
Oui.
Et c'est lui que maintenant, je dis, en avant, que c'est à l'hôpital, et que c'est bien qu'il... il n'est pas mort, avant tout, c'est la première chose, hein, parce que tout le monde, quand il l'a vu tomber, on pensait qu'il était mort. Et bon, maintenant c'est à l'hôpital, mais il est en train, on peut pas dire des guerres. Déjà, ils ont tout cassé. Hein. C'est quelqu'un entre vous, il se rappelle la baïta, il était chez nous. Bon, maintenant, il ne trouve plus la baïta, il trouve seulement des militaires qui l'ont tout cassé.
D'accord. Donc ils ont repris le terrain que vous occupiez et ils ont cassé la baïta.
Ouais. Oui, et je veux dire une chose, bon, qui donne l'idée de l'humanité, des troupes militaires et des flics, que même avec les camarades qu'il était par terre, qu'il était en train de mourir, ils n'ont pas arrêté les travaux. Ils ont continué les travaux. Que c'est une chose que normalement, dans les chantiers, c'était quelqu'un qui les blessait. Bon, même en Italie, on fait comme ça, on va fermer tout de suite tous les travaux. Et ils n'ont pas fait ça.
Oui, c'est sûr que de toute façon, ce gouvernement Monti, ça serait bien d'en dire deux mots. Moi, je voudrais quand même donner quelques éléments parce que on a pu penser, en tout cas certains ont pu penser que avec la chute du Cavaliere, avec le gouvernement Monti, ça, c'était peut-être, je dis bien, un espoir d'abandon du projet, et pas du tout, puisque là, on a affaire à un gouvernement de technocrates, un gouvernement d'experts techniciens. En premier lieu, il y a ce Monti là qui est un ancien de la Golden Sachs. Ensuite, il y a un militaire qui est à la défense, c'est un militaire de l'OTAN.
Voilà.
Ensuite, on a un préfet qui est au ministère de l'Intérieur, une préfète en l'occurrence. Donc, le ministère du Développement, c'est le directeur d'une ancienne banque. Donc, en fait, on voit bien qu'on a, au travers ce gouvernement d'experts, une espèce de... d'entêtement absolu de l'État italien à poursuivre coûte que coûte ces travaux qui sont dénoncés par des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes en Italie. C'est ça qui est, je pense, qui est important. Et que là, effectivement, le mépris de la vie, hein, ce que tu disais par rapport à Luca, la façon dont il a été poursuivi, et je rappellerai que juste avant, quelques minutes avant, il avait donné un interview, il avait donné
un
entretien à Radio Blackout, et c'est pas innocent, à mon avis, qu'il y ait eu cette poursuite dans le pylône par un chasseur alpin, ce genre de racaille militaire, pour le forcer à monter plus haut sur ce pylône, au risque, effectivement, de sa vie. Donc voilà, on voit bien l'entêtement de ce ministère, de l'État italien complet, mais aussi avec la complicité de l'Europe, hein, faut-il le dire, parce que l'Europe continue de financer cette saloperie de projet. Et voilà, on en est là. Alors aujourd'hui, militairement, voilà. Tu l'as dit, la Baïta a été détruite. J'espère que tôt ou tard, vous allez réussir à la reprendre. Et en tout cas, je le souhaite très vivement. Mais on est dans une espèce de guerre de position, en tout cas. Et c'est l'État et son armée, sa police, qui imposent cette position de force, quoi.
Oui, comme on a dit, ça fait quelques jours même, une grande réunion qu'on a fait, Monti, c'est le pire des gouvernements qu'on a connu. Hein? Même pire de Berlusconi, même pire de Prodi. Alors, c'est un gouvernement qui c'est vraiment pire de la gauche et de la droite. Et déjà, pour être pire de la gauche et de la droite, c'est difficile, parce que ce qu'on a vu toujours en Italie, même les choses que Prodi et Berlusconi veulent faire, alors la réforme du travail, la réforme de la retraite et aussi sur la haute vitesse et qu'ils ne sont jamais arrivés à faire, même par contradiction entre bourgeois, entre les partis du Parlement italien et aussi des syndicats, etc., etc., avec Monti, que tout le monde il considère second de la patrie, vraiment la personne qui est, bon, c'est neutral en rapport à la politique, il va faire qu'est-ce que les politiques ils sont jamais arrivés à faire. Et l'autre chose, il te dit toujours, bah, c'est pas moi, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Bon, dans la vallée, on dit encore une fois, il n'est pas passé Prodi, il n'est pas passé Berlusconi, il va pas passer Monti. Voilà. Et ils ont détruit, bon, la Baïta, et ils ont fait autre chose, mais nous on a bloqué toute la vallée, et on a invité toutes les personnes qui sont dans cette lutte avec nous à bloquer l'Italie. Et bon, c'est ce qui s'est arrivé l'autre semaine.
Et ça a fonctionné, oui, puisque vous avez réussi à bloquer à peu près une quarantaine de villes.
Ouais.
Il y a eu des actions. Est-ce que tu peux en parler de ces actions en réponse à cette agression à la Baïta?
Oui, on avait compris que si on restait dans la Baïta, c'était un affrontement qui restait seulement entre nous et la police, entre nous et les militaires. Même pour les lieux où il est la Baïta, on allait avoir une chose qui restait bon, obscurée, on peut dire, que beaucoup de monde n'arrivait pas à voir. Et alors, on a décidé de sortir de la Baïta, que déjà eux, ils avaient pris, et d'aller à bloquer les circulations, d'aller à bloquer les flux. Eux, ils veulent faire l'autre vitesse pour les flux monétaires, pour les flux, bon,
de marchandises.
Tout le monde qui les fait les flux, et nous, on a bloqué les flux. Et c'est ça que je crois que même ce soir, on va décider de faire une autre semaine de mobilisation, aussi contre les trucks cette fois, et alors avec des initiatives dans les hôtels où il habite, et aussi des blocs, et cette fois, pas seulement pour bloquer les flux des marchandises, mais aussi pour bloquer les flux des militaires.
Mmh. Alors, voilà. Moi j'aurais une question à te poser, Maurizio, c'est la stratégie du pouvoir et en particulier de ce préfet qui est au ministère de l'Intérieur, ainsi que de l'État en général, le militaire de l'OTAN, il y est pas, c'est pas pour rien dans cette stratégie offensive contre le mouvement Notav. Il a essayé de vous diviser, en fait. Il a essayé de diviser, on va dire caricaturalement, les bons et les méchants, quoi. Donc,
voilà.
il a ciblé toute une partie du mouvement. Est-ce que tu peux nous parler de cet échec de stratégie, finalement?
Déjà, dans les mois de juin, de juillet, ils ont cherché toujours de dire que c'était en partie du mouvement Notav qui était des bonnes, qui étaient des citoyennes, qui payaient les taxes, etc., etc., et qu'on est dans la montagne, etc. Et après, que les mauvais, qu'ils sont des anarchistes, des communistes, des black blocs.
Oui.
Et la vallée, il a répondu très clairement, on est tous des black blocs. Alors on n'accepte pas ces divisions. Et t'es pas des mauvais et des bonnes notables. Tout le monde qui accepte la ligne que comme mouvement notable on a donnée, même dans l'autodéfense active, pour nous, c'est un bon camarade de notre lutte. En Italie, comme en France, où aussi les camarades, je sais qu'ils ont fait plein d'initiatives, soit à Paris, soit dans les contextes de Lyon, soit du jour, soit de nuit. Bon, sont tous des camarades qui luttent avec nous contre l'autre vitesse. Et bon, et cette position du gouvernement, il marche pas, mais elle marche pas. Même pas seulement avec les mouvements, mais même les premières citoyennes des autres villes, ils n'ont pas cité ça. Aujourd'hui, il était en rencontre où le gouvernement, il cherche de nouveau de dire que vous achetez l'autre vitesse, on va donner de l'argent pour la vallée, vous payez moins de taxes et tout. Mais je crois que même le contexte institutionnel, il va dire de non. Les institutionnels qui l'ont acheté ça, ils se sont posés tout de suite dehors du mouvement populaire.
Oui. Alors, c'est ce qui est un petit peu ce qui est incompréhensible. Pardon, vas-y.
Pas de solution, pas de haute vitesse, pas d'autre solution.
Ouais.
Même, c'est nous, on a vécu dans l'autre vitesse aussi des autres choses, même la libre république. Alors, nous, on peut faire la médiation. On ne se déclare pas la libre république de la Val des Suses contre l'État italien, mais eux, ils ne font pas l'autre vitesse. Ça, c'est la seule médiation qu'on peut faire.
Alors.
Le 22?
Oui, ouais, oui, on a entendu.
Oui,
oui.
J'ai rigolé aussi un petit peu, mais bon, pour dire que ce n'est pas des autres possibilités.
Mais moi, ce que là, je me pose une question, c'est comment l'État peut-il maintenir ce projet alors que de plus en plus, de tous les côtés, il y a une critique fondamentale de la haute vitesse. Et par exemple, dans Les Échos, dans un journal qui est un organe du capitalisme, on peut dire,
oui,
dans Les Échos, il y a eu une critique.
Ils ont déclaré que c'est pas bon.
Oui. Ils ont déclaré que c'était le siège de la mafia, que ça finançait en partie la mafia, ces grands projets.
Oui, c'est seulement un projet qui va donner de l'argent à la mafia, d'un côté, et de l'autre, ça ressemble que la seule réponse qu'elle nous donne toujours, c'est « bon, on a décidé ça, on ne peut pas changer d'idée, il a décidé l'Europe, on ne peut pas changer d'idée ». Voilà, mais il me ressemble que ce n'est pas fort comme position, même pour eux, je veux dire.
D'accord. Maurizio, moi je voulais te demander, quand on a fait l'émission cet automne, il s'était passé beaucoup de choses pendant l'été. Et puis, depuis cet été, vous avez occupé la Baïta. Et moi je voudrais que tu nous dises un petit peu dans quelles conditions vous avez occupé la Baïta et le terrain que vous aviez acheté.
Non, on n'a pas occupé la Baïta. Hein. C'est d'accord. Pas correct ça. La Baïta c'est à nous. C'est notre propriété.
D'accord.
On ne peut pas occuper une chose que c'est à nous.
Oui.
Nous, on a habité la Baïta.
Vous avez habité,
on
d'accord.
On a vécu dans la Baïta pour tout l'hiver. On a fait des travaux. Comme on est habitué dans la montagne. On travaille aussi dans l'hiver dans la montagne.
Mm-hmm.
Et alors, bon, on a fait des travaux même par le 31 de décembre, le 1er. On était un millier de personnes qui ont fait la fête.
Oui.
Comme on a vécu toujours. On avait fait aussi des maisons sur les arbres. On a fait plusieurs choses, seulement
oui.
Aussi sur ça, eux, ils n'ont pas respecté la loi. Ils étaient obligés d'envoyer des lettres à les propriétaires, à nous, et ils n'ont pas envoyé les lettres. Les lettres, ils sont arrivés, ça fait 2 jours, et la Baïta, eux, ils les ont occupés. Ça
oui.
Fait 2 semaines.
Mm-hmm.
Pour pas nous donner le temps d'être en beaucoup dans les lieux.
D'accord. Mais ce que je voulais, moi, dire, c'est que tout l'hiver, tout l'automne et tout l'hiver, il y a eu du monde sur le terrain, et y compris oui. Des gens qui campaient en plein hiver.
Oui, oui, oui. Dans tout l'hiver, il y avait du monde qui est resté dans la Baïta, soit dans des... Bon, qui l'ont campé, comme tu dis, soit à l'intérieur de la Baïta. Personne n'a jamais... Même les jours qui sont arrivés étaient presque une vingtaine de personnes. Mais parce qu'on était convaincus qu'il arrivait les jours après.
Ah.
Ça, c'est vrai, ils ont gagné d'un point de vue, si tu veux, tactique.
Oui.
Nous avaient fait arriver des infos qu'il arrivait le jour après. Et pour le jour après, on avait convoqué un grand manif pour les bloquer.
Ah oui.
Et eux, ils l'ont anticipé d'un jour.
D'accord.
C'est pour ça qu'ils ont seulement trouvé un 21 de personnes.
D'accord. Et est-ce que c'est ce jour-là où Lucas est tombé?
Oui, c'est ce jour-là. Que Lucas, c'est un propriétaire, propriétaire agricole, il a plusieurs terrains où était la baïta. Et quand il a vu qu'il était seulement en 21, il a mis son corps contre l'armée, contre la police et contre l'État.
Oui. Et si on revient...
Et encore une fois, on a vu qu'ils n'ont même pas le respect d'une personne qui est tombée et ils ont continué les travaux. C'est ce que je veux dire tout
de suite. Oui. Je voulais aussi rappeler à l'antenne que au mois de décembre, on a eu des compagnons qui ont été arrêtés en Italie et qui sont allés en prison.
Ah oui, et ils sont encore en prison. Hein, plusieurs, pas tous. Mais on a encore 8, 9 compagnons qui sont en prison et plusieurs qui sont à l'arrestation domiciliaire.
Oui.
Même on a un camarade qui ça fait aujourd'hui six jours qu'il est en grève de la faim.
Oui.
Parce qu'il peut pas parler. Alors la loi, il les a dit, oui, tu es pas en prison. Mais en prison, il avait la possibilité d'écrire des lettres et tout. Ils l'ont mis à l'arrestation à son maison, mais il ne peut pas écrire, il ne peut pas parler avec personne. Et alors, c'est pour ça que ça fait 6 jours qu'il est en train de grève de la faim.
D'accord. Donc, il y a encore 8 compagnons qui sont incarcérés?
Oui.
D'accord.
Le dernier, il était arrêté, ça fait 3 jours. Mm-hmm. Parce qu'il n'avait pas trouvé dans les journées qu'il avait arrêté tout le monde, et ça fait 3 jours que le dernier, il était arrêté.
D'accord. Voilà. Bon.
Voilà, alors, aussi sur la caméra d'arrêter, je ne vais pas parler de ça, mais c'est sûr qu'une condition qu'on va poser pour reprendre la négociation, c'est qu'ils vont faire sortir tous les camarades de la prison, ils vont arrêter tout de suite la chose domiciliaire pour les autres.
Ils sont arrêtés pour quelle raison?
C'est une question que, comme moment notable, on va poser avec très de force.
Oui.
Les mairies qui aujourd'hui se sont rencontrées avec le gouvernement, alors aussi on doit comprendre que les mouvements c'est les mouvements, les mairies sont les mairies, c'est sûr, ils sont institutionnels, mais même eux, ils l'ont posé comme première question pour continuer à discuter avec l'État italien, qu'il soit fermé tout de suite les travaux. Per question de, en italien on dit di ordine pubblico, per question di ordre public.
D'ordre public, oui.
Ça, même les mairies, ils ont posé cette question. Ah, oui. Et je veux rappeler qu'ils sont 24 maires qui sont contre.
24 maires contre.
Oui, 24 administrations locales qui sont contre. Voilà.
Moi, je voulais demander quelle est vraiment la réalité des travaux. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont fait, mis à part la clôture de Barbelé, qu'est-ce qu'ils ont entrepris? Est-ce qu'ils ont entrepris déjà...
Ils n'ont fait presque rien comme travaux.
Ah, oui.
Ils ont fait seulement les travaux militaires.
Oui.
Même, ça fait 15 jours qu'ils ont pris la baïta, ils ont mis de nouveau filo spinato israélien. Je sais pas comment dire en français.
Les fameux barbelés, tranchants.
Ils ont mis dans les camps, aussi en Palestine, contre les Palestiniens.
Oui,
Et c'est le même, ils l'ont acheté d'un gouvernement israélien.
Ah oui.
Alors, on va bien à comprendre que c'est pas une question de travaux, c'est vraiment seulement une question de dire, on a commencé.
Oui.
Eux-mêmes, ils disent que vraiment les travaux, ils vont commencer les prochaines années.
Oui, mais c'est aussi la question de casser le mouvement quand même, parce que ils ont pris votre terrain. Et ça, c'est pas...
Ah oui, les terrains, ils les ont pris. Maintenant, sur ça, on a aussi des questions légales avec... on a porté plainte contre ça.
Oui.
Les avocats du mouvement, ils ont porté plainte parce que... Il est même... Il n'était pas encore arrivé les choses administratives qu'ils doivent envier quand ils vont exproprier un terrain.
Oui.
Les premiers sont arrivés, ça fait un jour ou deux.
Oui,
maintenant, je dis, ça fait un jour ou deux qu'ils sont arrivés, et la baïta, il était jeté, ça fait 15 jours. Pour l'instant, ils ont une interview.
Oui. Justement, voilà. nous avions décrit cet automne la vallée de la Clarée, et près de la Baïka, voilà. il y a des zones de culture de vignes, il y a des vignes.
Ah oui,
d'ailleurs, Luca fait partie des gens, qui cultivent une vigne, hein, qui ont repris le travail d'une vigne. Et donc.
Par les travaux des anciennes, si tu veux.
Tout à fait, oui. Et comment ont réagi les vignerons récemment? Parce que là aussi, il y a un checkpoint pour les vignerons.
Ah oui, aussi, ils continuent. Bon, même l'association des paysans. Il continue à dire que c'est pas possible, il peut pas travailler comme ça. Ils sont obligés tous les jours à donner sa pièce d'identité. Il peut pas porter autre personne, parce que les personnes pour aller dans les vignes, ils sont obligés à demander ça à la préfecture. Mmh. Et c'est une personne qui doit travailler les vignes. Pour la préfecture, c'est une personne qui il est contre la vitesse, il a pas l'autorisation pour aller à la vigne. Mmh. Voilà. Je sais que ça ressemble bizarre à une Europe, hein, une chose comme ça. Mais c'est ça.
C'est l'occupation militaire.
C'est une occupation, hein,
c'est
clair.
L'occupation militaire.
Oui.
Les vieux, ils disent que c'est pire qu'avec les nazis. Que même oui. avec les nazis, on n'avait jamais vu des choses comme ça.
Oui, à cet endroit-là, en tout cas.
Ah, oui, oui. Voilà. Bien sûr, je parle de la vallée.
D'accord, d'accord.
Où on avait beaucoup de maquisards.
Oui, beaucoup de maquisards. Alors, écoute, on va faire quelques minutes de pause musicale et on te reprend tout de suite après, d'accord?
Ok. Ciao, ciao.
Ciao.
À tout de suite.
Chissà, c'est l'infermiere che sta qui di notte. Si è mai chiesto perché? Siamo finiti qui al reparto 3. Vieni qui Mario, prendi un bicchiere.
Ma cosa fai?
Stai sempre a bere. Sentimi Mario, non fare il cretino. Io ci sto bene con il mio vino. E non invidio chi si accontenta, dopo 8 ore da quasi animale, di un po' di tele, primo canale. Dica Proietti, fra un paio d'ore, venga di sopra dal direttore.
Giunge il momento, vada al padrone.
Lei rende poco, lei è un ubriacone. E quel che è peggio è che c'è il coraggio di provocare uno strano contagio. Guarda lei come va lei. Dica Proietti, deve piantarla. Tutte le notti lei grida e parla. In questa casa c'è tanta gente, lavoratori, lei non fa niente. E si permette di disturbare, il giorno dopo va a lavorare, quindi lo sfratto è affare fatto. Chissà se l'infermiere che sta qui di notte s'è mai chiesto perché siamo finiti qui al reparto 3. Chissà se ha mai pensato che i nostri cervelli di alcol imbottiti hanno il coraggio d'essere impazziti. Chissà cosa ne pensa di questa pazzia lui che è quasi un signore con il cervello che impazzisce a ore.
Bon, voilà, Maurizio, est-ce que voilà. Tu es toujours là?
Écoutez, c'est une chose que je vais vous proposer dans l'émission. Maintenant, avec moi, est un professeur du Polytechnico di Torino. Vous voulez parler deux minutes avec lui?
Ah, ben oui, absolument, oui.
Vous posez des questions techniques. Hein? Alors, c'est le professeur Massimo Zucchetti. Maintenant,
merci.
C'est à vous.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Comment ça va?
Eh ben nous, on va bien. On espère que vous aussi. On a l'impression que vous avez quand même toujours la pêche pour continuer la lutte.
Oui. Écoute, mon français, c'est pas très bien. Et maintenant, si vous voulez, je compte un petit peu les questions techniques qu'il y a dans la haute vitesse, si vous voulez. Et le problème principal, c'est que l'haute vitesse a un effet, un impact sur l'environnement qui est très important. L'école polytechnique de Turin, il a fait études pour la présence d'uranium, d'asbesto, d'amiante,
oui,
et
oui.
Autre chose. Et maintenant, les proposants de l'haute vitesse n'écoutent pas les raisons techniques et simplement envient la police et c'est ça. Ici, il y a beaucoup de techniques, des professeurs, des étudiants qui connaissent les questions de l'haute vitesse et de l'environnement. Et maintenant, qui proposant l'haute vitesse, le gouvernement italien va à dire qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement.
Et, oui.
C'est incroyable pourquoi, disons que nous sommes contre le nucléaire et l'Italie s'est sortie du nucléaire et maintenant en Valsusa il a beaucoup d'uranium et Ivan a proposé l'haute vitesse et un tunnel et il a uranium voilà.
Oui, il y a deux.
C'est incroyable.
Ben c'est criminel. Enfin, c'est une attitude totalement irresponsable et criminelle de la part des industriels et des concepteurs du projet. Mais aussi, ils sont capables. Peut-être tu as des éléments là-dessus. Ils sont capables de mentir sur les données de trafic de marchandises, puisqu'en fait ils ont donné des chiffres monstrueux qui aujourd'hui sont on a la démonstration que ces chiffres sont faux.
Oui, la question de le trafic est incroyable. Pourquoi il a un trafic qui est très petit et mineur de 5 millions de tonnes à l'année et la ligne actuelle que là ici c'est de 20 millions et voilà où est la raison pour construire une autre ligne et il a études, il a prévision et une autre chose avec l'haute vitesse van à excaver in une zone avec beaucoup d'uranium.
Oui.
Qui va savoir que l'uranium de la Valsusa c'est pas pour autre chose qu'un simple déchet. Et qui sait que dans le tunnel de diagnostic, le tunnel de preuves, vont à poser des déchets radioactifs c'est une autre chose à considérer. Je suis très pardonnez-moi pour mon français.
Non, ça va très bien. T'inquiète pas.
L'important est comprendre si vous voulez une autre fois avec un papier et somme et choses écrites, je suis très meilleur.
Oui. Mais l'impact sur l'environnement, tu as raison, on le connaît, il est très important. On en a parlé ici aussi dans nos émissions déjà concernant le problème de l'amiante et de l'uranium.
Oui.
Mais il y a aussi un impact sur la vie sociale des gens qui vivent dans la vallée, qui est aussi très
oui.
important, puisque ça détruit
oui,
les modes de vie des personnes qui vivent.
Et ils vont à penser de poser les déchets après l'excavation du tunnel
oui.
dans un pays que le nom c'est San Didero, ici en Valle di Susa.
Ah oui.
Et voilà que les déchets de l'excavation sont en Val di Susa et il a un impact voilà pour le radioactive dust je ne sais pas le nombre en français le poudre radioactif et le poudre de petits gras de petites dimensions.
Ah oui, 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 les faibles doses, c'est ça ce dont tu parles ?
Oui, oui, oui.
Les effets
oui,
des faibles doses.
Bah, si c'est de l'uranium, c'est du minerai d'uranium,
oui, oui.
quoi. Donc c'est du minerai d'uranium qui va être en suspension et qui va être mis en poussière dans l'environnement immédiat, qui va être
oui.
déplacé par les camions, les
ah,
engins.
Voilà,
les...
Voilà.
Et ça va être dans l'atmosphère, ça va être dans l'air de toute façon, et ça va naviguer dans toute la vallée.
Merci, c'est un plaisir d'écouter un français très bien.
On fait ce qu'on peut. Mais ceci dit, Massimo, c'est la même chose pour l'amiante en fait, je crois. Puisque l'amiante se trouve sous forme de minerai.
Van à dire,
oui, oui.
Van à dire que seulement 105 mètres dans l'excavation, il a amiante. Mais c'est pas ça. Ils vont à les déchets vont à c'est très dangereux pour que c'est suffisant une simple fibre d'amiante pour causer un mésothéliome.
Oui.
Et il a pas de traces dans la propose de l'œuvre de la haute vitesse. Il a pas traces sur l'amiante et l'uranium.
Ah, ils n'ont pas abordé cette question.
Va dire que c'est pas un problème.
Ouais, oui. C'est sidérant, effectivement. C'est...
je t'ai donné Maurizio.
D'accord.
Oui.
Merci en tout cas pour ces précisions.
Merci à vous et pardonnez-moi.
Non, mais merci.
Mais de rien. Ciao.
C'est un plaisir. Ciao.
Voilà.
Bon,
oui.
Maurizio.
Vous avez parlé aussi avec le professeur.
Voilà,
oui.
On s'est fait expliquer,
voilà.
Oui. Alors, Maurizio, on voulait te demander un petit peu comment ça se passe, vos contacts, vos échanges avec d'autres lieux où on lutte aussi contre le TAV. Et on pensait en particulier aux gens qui luttent au Pays Basque.
Oui, Alors, on a même signé un carte, et en ce moment, je ne me rappelle plus la date et les jours, mais bon, on a signé une carte d'unité de lutte
oui.
avec soit les Français et du Pays Basque et soit les Basques, bon, espagnols. Et ça fait déjà des années. En plus, bon, même en Italie, on a fait un réseau avec des autres qui ils mènent des luttes soit sous l'eau publique, soit contre, bon, des autres questions. Par exemple, Nodal Moline, qui était contre la structure militaire dans le Venise et ce contexte, etc. On fait plusieurs meetings aussi. Moi aussi, je suis été à Paris, ça fait, bon, dans le mois de juin, je crois. Des autres camarades aussi, ils tournent un petit peu pour toute l'Europe, voilà.
Mmh. Oui, nous avons
on
vu un...
On considère que c'est une lutte européenne, comme minimum.
Ben, c'est absolument,
pas,
oui.
Je ne veux pas exagérer, mais on a eu l'autre semaine même des solidarités dans le Mexique, ça fait quelques jours d'aller Mapuche... Et etc. Aussi,
oui, il y a une poète mapuche qui a fait un poème de soutien à Luca, ouais.
Oui, on l'avait connu très bien, cette poète mapuche, parce qu'il était chez nous et il était même, bon, chez ma maison, mais aussi dans la maison de Luca. Ça fait, je crois, 3 ans. Et comme mouvement de la vallée, on les avait donné aussi un prime symbolique d'apporter, d'amener à les mapuches pour la lutte qu'ils sont en train d'amener.
Mmh. Voilà. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de... Bon, déjà, il faut absolument qu'on parle des les échéances que vous avez, vous, maintenant, là, prochainement, à court terme et à moyen terme. Et ensuite, on reviendra sur... faut préciser l'état de santé de Luca et savoir si on peut... s'il est possible de lui écrire, si c'est souhaitable ou s'il faut pas peut-être
oui,
pas le perturber,
voilà.
Ou si on peut écrire quelque part, inviter nos auditeurs, les gens qui veulent soutenir le mouvement, aussi d'un point de vue financier, c'est important de savoir quelle aide concrète on peut apporter.
Alors, je vais donner une adresse tout de suite, et j'espère que ce soit pas compliqué parce que c'est en italien, mais bon,
on va essayer,
va
oui.
avoir. Et que c'est A, comme Amérique,
oui.
je sais pas, V, comme Venise, S, comme Sondrio.
Oui.
AWS, Notav.
Notav.
Après. Et Virgilio It.
Virgilio.
Vous écrivez, bon, à cette adresse, ou même, si vous allez, bon, dans Google, ou dans autre, et vous cherchez Radio Notav.
Oui.
Après, on peut donner, parce que c'est très long de le dire maintenant.
D'accord.
Dans la radio, tous les numéros pour envoyer des chargeurs pour Luca ou tout.
D'accord.
Et si vous envoyez quelque chose à Radio Notav, après Radio Notav, il peut répondre et il donne toutes les choses.
D'accord, on fera comme
et
ça.
Donc là, ce que tu as dit...
Vous, comme radio, si vous me voulez contacter, après je vais voir des autres mails que vous pouvez même dire dans les prochaines émissions, etc., etc.
D'accord. Donc là, la première
chose.
La première adresse que tu nous as donnée, c'est une adresse sur Internet.
Oui.
Oui, voilà.
Internet, oui. Okay.
Bon.
Luca, bon, toujours, il était un petit peu mieux, hein. Même les médecins, ils disent que c'est un miracle.
Oui.
Nous, on croit que c'est vraiment les anciens de la lutte, ils sont les montagnes, c'est la vie même que Luca menait, qu'il a donné ça pour sa santé. Et de toute façon, c'est sûr que maintenant, il peut pas écrire avec personne. Et il a demandé d'avoir des papiers, etc. Mais les médecins, ils considèrent que c'est pas le cas pour le moment.
Oui.
Et même pour les visites, c'est seulement sa copine, sa mère, son frère, pour le moment, qu'il peut voir.
D'accord.
Pour pas créer des choses
oui.
trop fortes pour la santé, etc.
Oui. Mais de quoi est-ce qu'il souffre exactement?
On a décidé de faire, nous, tous les travaux de la campagne de Luca.
Oui.
Il est parti. Mais maintenant, ils se sont constitués des équipes de travaux qui vont
ouais.
faire tous les travaux que normalement Luca il avait fait, il devait faire dans la campagne, etc., etc. Voilà, ça c'est sur ces conditions. Comme mouvement, déjà ce soir, Dans une heure, on va faire une réunion pour décider les initiatives de la semaine.
Oui.
Cette soirée aussi, on doit savoir qu'est-ce qu'il a apporté aujourd'hui, la rencontre entre les mairies de notre vallée et le gouvernement, etc. Et après, dans le mois d'avril, dans le 11 d'avril, ils ont dit qu'ils vont faire de nouveau expropriés, hein, qu'ils vont apprendre des autres terres. Alors je crois que pour le 11 d'avril, s'ils vont faire les choses correctes, qu'il arrive le 11 d'avril, ils vont de nouveau avoir une grande réponse avec une grande manifestation, etc.
D'accord.
Et après, on va continuer les activités de toujours, que c'est aussi la campagne par l'UQAM, c'est aussi de faire toujours des initiatives pour rendre à les troupes d'occupation toujours qu'elles comprennent que ce sont des troupes d'occupation, même aller dans les hôtels où ils dorment à faire des cacerolados, ou même à faire des autres blocs de flux, mais aussi des militaires, etc.
D'accord, d'accord.
Voilà, c'est toujours même plus ou moins la même chose. C'est à eux de décider qu'ils vont arrêter les travaux.
Oui, de toute façon, on n'imagine pas que vous allez baisser les bras comme ça, vu la vigueur du mouvement.
Ah oui, c'était une autre chose. Peut-être qu'on va aussi faire, dans les premiers jours d'avril, une grève générale.
Ah oui, d'accord. Alors là, ça nous
même
met...
Si ça fait jusqu'à hier, la chef de la CGL, que c'est comme la CGT en France, il a dit que c'est pour la vitesse. Mais bon, c'est un problème à la CGL, c'est pas à nous. Et nous, on va faire un grève général.
D'accord, ben très bien. Justement, voilà. ça me permet de te poser la question. Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement qui se déroule depuis le mois de décembre, le mouvement des fourches en Italie du Sud?
Ah oui, bien
en
sûr.
Sicile, je crois que c'est en Sicile, hein, c'est ça, hein, je me trompe pas.
Oui, c'est en Sicile.
Et est-ce que, parce qu'apparemment c'est un mouvement qui a été très très dynamique, qui a réussi à faire des grèves très importantes, et dont effectivement les médias ont bien évité d'en parler, parce que, pour pas que ça fasse tache d'huile peut-être. Alors peut-être que vous avez des liens avec une partie de ce mouvement, je ne sais pas.
Bon, je crois que quelqu'un il a des liens, mais pas vraiment des vrais liens, mais on a dit plusieurs fois qu'on considère que eux, comme des autres luttes, même en Italie, c'est la partie meilleure, mais le mieux de l'Italie et avec laquelle on a des intérêts à avoir des liaisons.
Mmh.
Voilà.
D'accord, d'accord.
D'accord. Je m'excuse, mais maintenant... Et ça a commencé en réunion.
Oui.
Alors, je ne peux pas rester.
Alors, d'accord. Est-ce que tu peux transmettre notre solidarité aux personnes avec qui tu vas être en réunion ce soir?
Oui, bien sûr.
Voilà. Aux compagnons que nous avons rencontrés quand nous sommes allés vous voir cet été, par exemple.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Je vais dire encore merci, merci, merci.
Mais nous aussi, merci.
Toujours, on va attendre toutes les personnes que comme nous ils vont chercher une vie qu'on peut vivre une vraie vie et pas la vie de l'Union européenne du capitalisme international. Bon, ils sont des frères pour nous.
D'accord.
Tout à fait. Mauricio.
Merci Mauricio et bon courage alors à tout le monde.
Merci. Ciao.
À bientôt. Ciao.
Ciao.
À bientôt. Ciao.
laisser de traces sans éveiller la sentinelle. Le bandit quitte la forteresse. Son insatiable volonté à parfaire son entreprise justifie les moyens mis en œuvre des nantis. Les obstacles plus nombreux manifestent la tristesse de cette humanité hostile. Mais le bandit reviendra acquérir l'objet du délice. Sa liaison illégale, il ne peut s'en accommoder en quarantaine. Les remèdes qu'il affectionne pour usurper l'autorité justifient de sa servitude nécessaire. Et c'est sans quitter le masque qu'il arbore les contours de la citadelle. Il se campe, espérant le crash qui abolira l'abominable machination dont il n'est que le énième zélate.
Oui, alors on vous a parlé dans ce dans cette interview du mouvement des fourches, justement dans le dernier courant alternatif, il y a un article là-dessus qui concerne effectivement ce mouvement des fourches et puis le gouvernement Monti dont on a parlé tout à l'heure, qui est quand même un scandale. Il y a ce scandale-là, il y a aussi ce qui s'est passé en Grèce. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à des situations où les pouvoirs de ces pays-là ne sont plus des gens qui sont élus par le peuple, même démocratiquement à la parlementaire.
Avec toutes ses limites.
Avec toutes ses limites, c'est moins qu'on peut dire, qu'on connaît. Ben non, c'est vraiment des gens qui sont mis par le système capitaliste à la tête de ces pays. On a le cas de la Grèce et on a le cas aussi de l'Italie. Tout à l'heure, tu donnais un certain nombre de technocrates et techniciens qui sont maintenant au pouvoir en Italie. Là, il y a aussi au niveau, par exemple, de l'école. Eh bien, c'est un recteur d'université qui est ministre maintenant. Tout est comme ça dans ces deux pays-là. Alors bon, on espère que si les gens qui sont là-bas vont pouvoir gagner, puisque je crois qu'il y a quand même beaucoup de luttes et de gens qui se mobilisent.
Juste un mot sur ce que tu viens de dire, Denis. Ce qui est très bien expliqué dans l'article, c'est le fait que, par exemple, ce gouvernement Monti a réussi à mettre en œuvre des réformes qui avaient été entreprises par le Cavalieri beaucoup mieux que lui-même n'aurait pu le faire, parce qu'en fait il est de nulle part ce type. Il est de la technocratie internationale, du système bancaire international. C'est un peu comme si c'était un auxiliaire du FMI ou un auxiliaire de la restructuration quoi du pays. Et en fait dans l'article ils disent il est ni de la gauche ni de la droite, il est de partout quoi, il est de tous les bords et il y va très très lourdement contre toutes les classes sociales, contre la destruction totale du travail, du code du travail. Là, il y a eu une attaque sur les marins pêcheurs, je crois. Il y en a eu un certain nombre comme ça récemment. Mais effectivement, il y a de la réaction, il y a des réactions très très vives.
Alors simplement, en Italie comme en Grèce, ces gouvernements de technocrates sont soutenus de l'extrême droite jusqu'à la gauche,
ouais, voilà. Ça aussi.
Oui.
Et d'ailleurs, on retrouve d'ailleurs, il y a une autre article dans le courant alternatif, là, justement l'Autriche, qui a inauguré un peu ça, quoi, avec une alliance assez dingue entre la gauche et l'extrême droite d'Haider, même si d'Haider est mort depuis, je crois, il a été remplacé, n'empêche, et qui fait que on peut se poser des questions à la veille de ces élections en France, que ce qui va se passer dans ces prochaines années finalement, parce que bon, on est quand même dans une situation où les crises, comme on dit, risquent de prendre de l'ampleur, y compris chez nous. Alors on va peut-être se quitter, à moins que... Non, tu as encore des choses à dire ?
Non, il reste du temps à causer.
Il reste du temps. Bon, bah, j'ai des tas de choses. Ah, tiens, justement, on parlait des trucs qui sont complètement horribles. Il y a IBM. IBM, c'est bien connu pour... IBM, c'est une entreprise multinationale d'origine américaine qui a gagné beaucoup d'argent avec le régime nazi, en vendant ses beaux et loyaux services, en particulier avec la machine mécanisée Aldridge, qui est l'ancêtre de l'ordinateur. Eh bien, IBM maintenant s'est développé, c'est devenu une multinationale tentaculaire. et elle vient de proposer à l'État français de ses services pour débusquer les fraudeurs aux services sociaux. Et oui. Alors, c'est ainsi que dans la lutte contre les fraudes, il propose un moyen de détecter les comportements à risque. Alors, grâce évidemment à des logiciels, et je vais peut-être vous citer, même si c'est un peu, peut-être un peu chiant, je ne sais pas, ce que dit le directeur d'IBM France, dans son jargon. Il dit, nous avons développé au profit des organismes de protection sociale des solutions qui permettent d'identifier des schémas de comportement atypiques ou anormaux de la part de certaines personnes. Nous distinguons deux modes de fonctionnement, un mode dirigé, quand on dispose d'une base de cas de fraude avérée, dans lequel on identifie des cas proches qui déclenchent des alertes, lesquelles permettent d'alléger la charge de travail des analystes. Nous utilisons aussi un mode non dirigé quand on dispose de données non historisées ou de volumes de données de référence insuffisantes. Dans ce cas, nous caractérisons des groupes homogènes de bénéficiaires en termes de risque, ce qui permet d'identifier des anomalies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce système de machine IBM, eh bien, il devrait permettre de passer de 119 heures de traitement pour détecter 1000 euros de fraude, c'est ce qu'on en est aujourd'hui à la CAF, hein, à 22 minutes, et détecter en moyenne 68 fois plus de cas frauduleux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que ces machines vont détecter les fraudes des cotisations sociales payées par les patrons,
hein, ça, ou pas payées, justement.
Ou pas payées par les patrons, justement, c'est ça le débat, on verra bien, mais bon, enfin on verra rien du tout, certainement. On va peut-être se quitter.
Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltenus, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on non la considère pas fatale. Et en petite métaphore, on pourrait dire aux enfants, le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, il attend toujours les ordres, le jeune homme. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. C'était donc Grégor. Chaque semaine, sur l'Écho des Grecs de Montpellier, Canassi de Toulouse et Radio Primitive sur Reims, mais aussi sur Internet, OC Libertaire et le Chat Noir 51. Grégor, une parole anarchiste communiste.